franceinter.fr.
Il y a 3,6 millions d'années, un groupe d'Australopithèques marchait dans les cendres humides d'un volcan et inscrivait sa trace dans l'histoire.
Eh bien, à présent, c'est sûr, il marchait. Il marchait il y a très très longtemps de cela. On peut l'affirmer grâce à la découverte de ces empreintes de pas inscrites dans la cendre d'un volcan. L'ancêtre de l'homme se tenait réellement debout à l'Aetolie il y a 3 600 000 ans.
Le site de l'Aetolie en Tanzanie, découvert donc dans les années 70, qui contient les plus vieilles traces de pas de nos cousins australopithèques, il vient d'être fouillé à nouveau et des scientifiques italiens et tanzaniens ont découvert de nouvelles empreintes, dont certaines très larges, appartiennent à un mâle mesurant presque 1,70 m. C'est beaucoup pour un australopithèque. On en parle avec vous, José Braga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue, professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Alors pourquoi ces nouvelles traces de pas sont importantes pour comprendre qui étaient les australopithèques ?
Et en fait, ces australopithèques dont on a trouvé les empreintes de pas tout récemment sont des australopithèques proches de Lucie. Ils appartiennent à la même espèce que Lucie. Mmh. Ils vivaient en Afrique de l'Est entre 4 et 3 millions d'années. Les traces que nous avons ont 3,6 millions d'années. Et ce sont les traces de deux nouveaux individus. Nous en connaissions déjà trois. Et ces deux nouveaux individus sont plus grands. En tout cas, l'un d'entre eux est bien plus grand que ce que l'on pensait jusqu'à présent à propos de ces australopithèques.
Une fois qu'on sait qu'il est grand, ça nous renseigne sur la diversité du groupe d'Australopithèque ?
Oui, tout à fait, parce que là, nous avons la chance d'avoir un instantané de plusieurs individus, et l'un d'entre eux étant beaucoup plus grand que les autres, eh bien, cela nous montre qu'il y avait un fort dimorphisme dans la taille de ces Australopithèques à ce moment-là, précisément, il y a 3,6 millions d'années. Or, cette variabilité de taille, c'est un très très bon indicateur de la compétition entre les mâles pour pouvoir transmettre leur génération, leur gène à la génération future. Donc c'est un peu une sorte d'homologie entre ce que nous observons avec ce que nous observons chez les gorilles à l'heure actuelle. Les gorilles mâles sont très souvent différents par leur taille et les plus grands sont les dominants, ceux qui vont transmettre leur gène.
Là, en tout, vous parlez de 5 traces de pas. Les deux sites de fouilles, ceux d'il y a 40 ans et ceux de cette année, sont distants de quelques centaines de mètres. Est-ce qu'on peut penser que c'est le même groupe qui a marqué ces deux sites ?
Alors c'est possible, ça n'est pas exclu, mais pour l'instant les observations faites par les géologues ne permettent pas de l'affirmer à 100%. Par contre, ce qu'on peut dire c'est que ces deux séries de traces sont relativement contemporaines. Elles peuvent être distantes dans le temps de quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'années, pardon, tout au plus. Mais à l'échelle bien sûr de l'évolution de cette espèce, c'est tout à fait mineur.
Donc José Braga, on peut comparer vraiment ces Australopithèques aux gorilles actuels ?
On peut les comparer non pas par leur morphologie ou leur comportement, on peut les comparer en termes de structuration sociale et de dimorphisme sexuel. C'est-à-dire qu'on a probablement affaire avec l'espèce de Lucie à des groupes qui sont de relativement petite taille et pour lesquels on a une forte compétition entre les mâles qui va engendrer ce fort dimorphisme sexuel entre les mâles qui cherchent à conquérir le cœur des femelles et à transmettre leur gène à la génération suivante.
On vous entend assez mal, j'espère que la prochaine question ce sera mieux. Quelle succession d'événements météorologiques ou géologiques sont nécessaires pour que ces traces soient moulées et nous parviennent actuellement ?
Alors en fait, ce qui est important, c'est que ces traces sont moulées dans de la cendre qui donc a été projeté par un volcan. Cette cendre a ensuite été humidifiée par une pluie qui est survenue peu de temps après l'éruption. Des Australopithèques ont marché ensuite sur cette cendre humide qui, de nouveau, a été très rapidement, en quelques jours, recouverte par une nouvelle éruption volcanique. Et c'est ce qui nous permet de les observer encore aujourd'hui. Sinon, elles auraient été complètement détruites.
Ça veut dire que ces Australopithèques vivaient dans un environnement hostile ? Deux éruptions en moins de quelques semaines ?
Absolument. Ils vivaient non seulement dans un environnement hostile pour les raisons qu'on vient tout juste d'évoquer, mais aussi parce que ces animaux étaient probablement chassés. On a retrouvé des traces claires de prédation par de gros carnivores sur d'autres sites. Donc ils étaient à la fois, le ciel leur tombait sur la tête de temps en temps, et puis aussi de gros carnivores, par exemple des tigres anansapes, pouvaient également les chasser.
Donc plus aucun doute sur la bipédie évidemment de ces Australopithèques. Hein. On en a la trace inscrite dans ces cendres, José Braga.
Oui, absolument, ces traces de pas. Vous savez, on en a découvert les premiers éléments il y a maintenant plusieurs décennies. toujours dans la même région, et elles ont confirmé ce que l'on savait déjà à partir de l'étude du squelette de Lucie, c'est-à-dire que ces australopithèques est-africains entre 4 et 3 millions d'années étaient tout à fait bipèdes, capables de se déplacer sur leurs deux pattes postérieures, mais avaient conservé une capacité à grimper dans les arbres.
Ouais. Si on devait les imaginer marchant dans la boue, qu'est-ce qu'on ajouterait sur le tableau pour le rendre réaliste? Des bagages, des armes, des vêtements?
Des vêtements, on ne peut pas le dire, mais il faut imaginer probablement des outils très rapidement après cette période-là, puisque maintenant, nous savons que ces Australopithèques sont probablement les artisans des premiers outils qui ont été fabriqués il y a 3,3 millions d'années. Alors je sais qu'à l'échelle d'une vie humaine, 300 000 ans d'écart entre les traces et les premiers outils, c'est important, mais à l'échelle de l'évolution de cette espèce-là, c'est relativement minime. Donc ces Australopithèques devaient certainement se déplacer avec des outils, en tout cas 300 000 ans plus tard, et cela peut-être déjà, mais ça on ne le sait pas encore.
José Braga, il y a notre invité Roland Salès qui se pose une question évidemment en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Roland Salès,
est-ce que les Australopithèques se parfumaient?
Alors, est-ce qu'on peut en avoir des traces dans les cendres?
Alors malheureusement, c'est une très bonne question qui nous intéresse beaucoup aussi à Toulouse, le système olfactif. On sait que les chimpanzés et les humains ne sentent pas du tout de la même manière, parce que notre système olfactif s'est dégradé au fil de l'évolution, et beaucoup de gènes qui s'expriment pour le système olfactif chez l'homme, normalement, ne s'expriment plus, sont silencieux. Par contre, ils le sont toujours chez les chimpanzés. Pour les Australopithèques, on ne sait pas s'ils se parfumaient, malheureusement. Le seul organe des sens qui laisse une trace sur l'os, c'est l'organe de l'audition.
Est-ce que d'autres de nos cousins étaient présents dans la même zone d'Afrique au même moment?
Alors c'est possible. En tout cas, certains collègues l'affirment à partir de la découverte que l'on qualifie de kényanthropes, qui ont le même âge que les traces dont on parle aujourd'hui. Et ces kényanthropes, beaucoup pensent qu'ils sont peut-être plus étroitement liés à l'homme que ne le sont les Australopithèques de l'espèce de Lucie. Donc probablement, dans cet environnement est-africain, deux grandes formes dominées se côtoyaient, et l'une d'entre elles seulement a conduit à l'espèce humaine actuelle.
José Braga, dernière question. 1m70, c'est vraiment une surprise comme taille pour un Australopithèque ou pas?
Alors c'est surprenant si on regarde ce que l'on connaît en Afrique de l'Est. Par contre, d'autres découvertes toutes récentes qui feront l'objet de publications à l'avenir, montrent que on a des éléments osseux, notamment des éléments du squelette des jambes, qui montrent de gros individus également sensiblement de la même taille, c'est-à-dire aux alentours d'1m60 à 1m70 en Afrique du Sud.
Merci beaucoup, très belle découverte en tous les cas en Tanzanie de ces traces donc d'Australopithèques vieilles de 3,6 millions d'années. Merci beaucoup José Braga et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le rat content qui a les oreilles roses et légèrement inclinées. Des chercheurs de l'université de Berne en Suisse ont comparé des photos de rats stressés et de rats contents pour voir si leurs émotions étaient visibles sur leur face. Eh bien, seules les oreilles varient entre la situation positive et négative. Elles sont plus inclinées chez le rat content, indiquant la relaxation des muscles. Elles sont également plus roses, certainement à cause d'une plus forte vasodilatation des vaisseaux sanguins due à l'excitation. Les chercheurs précisent que ces informations seront surtout utiles aux laborantins, car entre eux, les rats communiquent surtout par les odeurs, le toucher et les vocalisations, et au final, peu par la vue. Si l'homme a perdu son os pénien, c'est certainement parce qu'il n'est pas polygame. Cette question de la disparition de l'os du pénis agite les scientifiques depuis un moment, d'autant que nos proches cousins, les bonobos et les chimpanzés, possèdent ce rigide appendice appelé aussi bacula. En étudiant l'évolution de l'os chez de nombreuses espèces de primates actuelles, les chercheurs concluent qu'il est utile surtout chez des groupes d'individus où les femelles s'accouplent avec plusieurs mâles et où la compétition pour la fécondation est donc importante. En permettant une introduction profonde dans le vagin et en gardant l'urètre constamment ouvert, l'os pénien favorise les mâles à l'ossature la plus massive, un problème de taille donc qui bien sûr a complètement disparu chez l'homme moderne. Et puis saviez-vous que plus de 62% des femmes et 58% des hommes sont incapables de sentir l'odeur particulière de l'asperge dans les urines? Cette drôle de conclusion fait partie d'une étude en cours bien plus large sur la diversité génétique du sens de l'odorat chez les Européens. Ce syndrome de l'asparagus anosmia, ou incapacité à sentir l'odeur de l'asperge, est lié à une variance génétique particulière vérifiée sur une cohorte de plus de 700 000 génomes. Pour les chercheurs, deux questions demeurent toujours. Pourquoi l'asperge sent-elle aussi fort dans les urines? Et quel est le processus évolutif qui a conduit près de la moitié de la population à perdre cette capacité à sentir cette odeur? Il y a encore du travail, mais on a peut-être quelques réponses avec vous, Roland Salès.
assez peu et guère plus que ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, le métabolisme de l'asperge est très variable sur les individus. Donc déjà, dans l'urine de certains, on sent très fortement l'odeur dite d'asperge et d'autres pas. Et deuxièmement, effectivement, du côté du récepteur, il y a à peu près la moitié de la population qui ne sent pas cette odeur. Sans qu'on sache vraiment si c'est un avantage ou un désavantage évolutif.
Mais nous ne sommes pas tous égaux face aux odeurs. D'ailleurs, on peut le vérifier au musée du parfum, on en parlera avec vous tout à l'heure.